L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, parfois immobilière, et c'est le cas d'ailleurs cette semaine, puisqu'on va s'intéresser effectivement à l'immobilier. Quel sera l'immobilier de demain? Quelles seront les agences? Que vont devenir les notaires? Vendre son bien immobilier moyennant des honoraires fixes de 2000 euros seulement, telle est la proposition révolutionnaire des agences de papa, le réseau immobilier digital indépendant qui a été créé en 2019 et coté en bourse, n'en finit plus de défrayer la chronique, agace certains réseaux immobiliers traditionnels. Alors que reste-t-il aux agences justement? Va-t-on vers une digitalisation croissante? Qu'est-ce que la crise a changé pour les agences immobilières, pour les notaires aussi? Un nouveau modèle est-il possible ou souhaitable? Les réponses avec deux spécialistes qui sont sur ce plateau. On accueille Frédéric Ibanez. Bonjour Frédéric.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes président cofondateur des agences de papa. On va vous représenter dans une seconde. Et on accueille également Maître Christophe Cheval. Bonjour Christophe.
Bonjour,
bonjour Maître. Notaire associé de KL Conseil, qui est notre voisin, puisqu'on est juste à côté de votre étude.
Hein, oui, j'ai de fier, oui.
Voilà, juste à côté, donc près du Palais Brognard, tout près donc du studio de l'Hebdo Patrimoine. Voilà pour cette présentation, messieurs. Les agences, le modèle, quel modèle pour demain? On s'y intéresse tout de suite pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Doit-on recommencer à présenter les agences de papa, Frédéric Ibanez? Eh bien oui, on va le faire quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce modèle, hein, tout a commencé il y a quelques années. Racontez-nous cette incroyable aventure, puisqu'aujourd'hui vous êtes à la tête d'un groupe coté en bourse. C'est suffisamment intéressant pour le signaler, et qui en plus se débrouille pas mal. Alors racontez-nous la genèse des agences de papa.
Alors la genèse, l'entreprise, on a commencé l'aventure en 2019. Avec mon associé Nicolas Frattini, cofondateur des agences de papa. Ça a commencé sur une idée toute simple, en fait. C'était le fait de pouvoir baisser les prix. On a identifié une chose dans l'immobilier, c'est qu'à l'avenir, ça ne pouvait pas forcément continuer de cette façon. Les commissions sont élevées, ça donne un poids sur la consommation, sur l'acquisition d'un appartement. Et nous, on a ciblé une chose. On était au début du digital, à l'origine. Cependant, baisser les prix, c'était vraiment la chose la plus importante. Ça s'est fait dans la téléphonie, ça a fonctionné. Ça s'est fait dans l'aviation, ça a fonctionné. Dans le transport, ça a fonctionné. Mm-hmm. Donc on s'est dit pourquoi pas.
Pourquoi pas le Free ou le EasyJet, finalement, de l'agence immobilière?
Tout à fait. Et finalement, que ce soit Free ou EasyJet, aujourd'hui, on a tous les services. On paye pour des prestations supplémentaires, mais ça fonctionne très bien. Ça permet aux gens de voyager, ça permet aux gens de ne pas avoir un poids sur sa facture avec le téléphone. On payait tous 200, 250 euros de facture. Aujourd'hui, c'est 200 euros. C'est 20 euros. Quelqu'un est arrivé, c'était Xavier Niel à l'époque, il a dit je vais baisser les tarifs. C'est ce qu'il a fait. Tout le monde a dit ça ne va pas marcher, il n'y a pas d'agence physique, il ne va pas y avoir assez de services après-vente. Et finalement, ça a marché, ça a fonctionné. Aujourd'hui, c'est les numéros 1. Et en tout cas, on est parti sur ce principe et on a tout fait pour faire en sorte que ça fonctionne et d'amener le service qui va avec.
Ouais, vous aviez un passé dans l'immobilier, c'est un métier que vous connaissiez?
Ah oui, moi j'ai 20 ans d'expérience dans l'immobilier et mon associé, lui, était dans la restauration. Il avait déjà digitalisé toute la chaîne de valeur dans la restauration. C'est ce qui fait que son groupe, qui est sur Nice et en Espagne, a pu passer la crise du Covid parce qu'il y avait une gestion à distance qui était mise en place, un suivi des articles. Donc il était déjà très avancé dans ce domaine. Et finalement, il a apporté son expérience. Ça a été très complémentaire avec mon expérience dans l'immobilier. Je peux le dire, l'un sans l'autre, on aurait pas pu le faire.
Ouais, et c'est la rencontre, d'où le nom de deux papas. Hein. C'est un peu, bon, je ne sais pas si c'est la belle histoire ou c'est le storytelling, mais en tout cas, bon, c'est sympathique. Vous rencontrez, en allant chercher les gamins à l'école.
Exactement.
Vous dites, tiens, on est deux papas, on a cette idée. Vous vouliez monter tous les deux une société. Vous avez dit, là, le virage du digital, c'est pour nous, il y a quelque chose à faire dans l'immobilier.
Exactement.
Et ça déclenche ce nouveau concept, les agences de papa. Donc vous proposez un pack clé en main, je dirais, tous les outils pour vendre son bien immobilier sans passer par un agent traditionnel. C'est-à-dire que le vendeur se substitue finalement aux professionnels de l'immobilier?
Non, pas du tout. En fait, les outils dans l'immobilier, ils existent depuis des années. Estimer un bien à distance, signer un mandat électronique, tout ça, c'est des outils qui sont déjà à disposition des agences. C'est simplement qu'ils n'étaient pas utilisés. À l'origine, on n'a pas inventé la poudre. On a simplement utilisé des choses qui existaient, une technologie très simple. Mais cependant, si les agents immobiliers l'utilisaient, ça ne justifie plus les honoraires. Comment justifier des honoraires si on ne se déplace pas pour les photos ? Si un algorithme estime votre bien, et ils le font très bien. D'ailleurs, c'est sur la base des ventes effectuées par les notaires. Hein. Donc, que ce soit Cityscan ou Meilleure Agence, leur modèle est calqué là-dessus. Mm-hmm. Et ça fonctionne très bien et ça donne un prix. L'estimation est beaucoup plus juste parce que ce n'est pas une estimation faite pour prendre un mandat.
Donc, finalement, vous avez aggloméré les outils digitaux qui existent ou qui existaient sur la place pour dire, ben voilà, on vous donne... à vous, vendeurs, toute cette panoplie, toute cette boîte à outils, finalement, moyennant
exactement.
un tarif unique. Ensuite, ça coûte moins cher à tout le monde.
Ça coûte moins cher à tout le monde et ça permet justement de baisser les tarifs. Mais si toutefois les agents immobiliers utilisent ces services, ils ne peuvent pas justifier, ça ne justifie plus leurs honoraires. Donc quelque part, on a mis au service du public le fait de pouvoir estimer un bien à distance, le fait de signer des mandats électroniques, le fait d'un algorithme qui est capable de rédiger une annonce à distance et de la diffuser en moins d'une minute sur tous les sites internet. Donc c'est des outils simples. Et à partir de là, on a créé nos propres outils, des outils qui sont beaucoup plus techniques pour agrémenter notre offre.
Voilà. Et donc ça a donné ce modèle, les agences de papa. Ça cartonne. Plusieurs dizaines de milliers effectivement de transactions qui ont été effectuées grâce à vous depuis ces 2-3 ans. Une question à notre notaire, Maître Cheval. Quand vous voyez ça, justement, un trublion de l'immobilier, on peut dire ça comme ça, qui arrive avec un modèle. Alors c'est facile de le dire après, comme Yale, comme EasyJet, voilà, tout était là, mais qu'il rassemble. Quel est votre regard là-dessus, sur ce nouveau modèle, en tant que notaire ?
On est déjà assez admiratif par rapport au succès en fait de cette société en fait et son avancée. Mais excusez-moi. Mais c'est aussi peut-être l'avenir en fait. Hein, on voit, enfin. La digitalisation, en fait, c'est dans tous les métiers du droit, et puis tous les métiers, en fait, on va dire, pas, je vais dire périphérique, mais c'est pas du tout périphérique, hein, l'immobilier. Mais je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Voilà. On suit ça de près.
Est-ce qu'il y a un trublion comme ça chez les notaires, un notaire 2.0 qui vient donner un coup de pied dans la fourmilière et dire, nous aussi, fini les honoraires insupportables des notaires, c'est trop élevé, et qui tente de révolutionner votre pratique?
Non, on a un principe. De toute façon, déjà, en fait, le notariat est très bien organisé avec le Conseil supérieur du notariat. On a un tarif qui est réglementé, qui est fixé par décret. Et donc, il n'est pas question pour un de nous, en fait, de dire on casse les prix, puisque là, c'est...
C'est Bercy qui ne va pas être content.
Bon, Bercy encore. je ne sais pas comment il pourrait voir ça, mais en tout cas, le notariat, ce n'est pas possible. Comme il n'y a pas de concurrence entre nous, en fait, que vous alliez chez un notaire niçois ou un notaire parisien ou un notaire Clermont-Ferrand, vous allez avoir toujours le même tarif. Vous voyez, c'est pas... Et il n'y a pas non plus d'ubérisation, en fait, du métier du notariat. Donc c'est ça. Le tarif est là aussi pour contrôler ça.
Ouais, en revanche, vous avez, vous aussi, de plus en plus d'outils numériques à votre disposition. C'est le thème du, attention, 117e congrès des notaires qui a lieu en ce moment à Nice, 25 septembre. Alors vous ne les avez pas tous faits, 117e évidemment, mais le thème donc de ce congrès, c'est effectivement tout ce qui est numérisation. La numérisation, vous l'avez connue, Maître, avec vos autres confrères, lors de cette année 2020, lors de cette crise sanitaire qui a forcé tout le monde à passer le cap du digital. Expliquez-nous.
Alors, déjà, en fait, il faut savoir qu'un congrès, ça se prépare 2 ans en avance. Donc on était à la limite avant la pandémie pour ce sujet. Donc on était déjà assez en avance. Et déjà, la signature électronique, en fait, existe depuis de nombreuses années dans le notariat. Elle nous est enviée par beaucoup de professions du droit. Mais c'est vrai que cette pandémie, en fait, a accéléré tout le process, en fait. Et notamment, nous a amené à revoir, en fait, un certain nombre de choses. Et on est vraiment dans le thème du congrès aujourd'hui, puisque, en fait, on doit absolument sécuriser... d'un point de vue juridique, en fait, la digitalisation du droit. Voilà. Et il y a beaucoup de sujets dans ce congrès qui sont là pour apporter des réponses, en fait, et faire des propositions, puisque le congrès est là aussi pour faire des propositions au ministère public sur la modification de la règle de droit. Et notamment, il y a un télescopage, finalement, entre le code civil, qui date quand même de 1804, même s'il a évidemment énormément évolué, par rapport au nouveau nouveaux outils, aux nouveaux contrats qu'on voit aujourd'hui du fait de la révolution numérique. Voilà.
D'accord. Donc 1804, 2021, bon, on voit que voilà, du passé, des nouveaux outils évidemment. Tiens, Frédéric, une question pour vous, agence de papa. Comment s'est déroulée, comment s'est passée cette crise sanitaire ? Alors, on sait que paradoxalement, tu vas pas nous contredire, hein, plus d'un million de transactions, ça a été une année extraordinaire, une fois de plus, en tout cas une nouvelle année record. Est-ce que vous en avez bénéficié ?
Tout à fait, il y a un report aussi des transactions. Ce qui fait que quelque part, il y a un report des transactions, il y a l'immobilier qui est de plus en plus une valeur refuge. Donc on a tous envie, après une période comme on l'a vécu, d'avoir notre chez-soi, d'avoir un jardin, d'avoir de la liberté, et on a des ambitions qui sont différentes. Donc à partir de là, c'est certain qu'il y a une envie d'acquérir de l'immobilier. Les personnes aussi ont fait beaucoup d'économies, hein, parce que quand on ne sort pas pendant une année, on se retrouve avec un petit peu plus d'argent,
donc ouais, à partir de là, il y a beaucoup d'épargne
et ça permet tout simplement de pouvoir soit investir, soit envisager d'avoir un projet, parce que c'est quelque part c'est un projet de vie, et quand on a connu une crise comme celle-ci, la première chose qu'on souhaite, c'est avoir du confort chez soi, c'est avoir des projets. Donc je pense que ça a apporté beaucoup. Et je souhaiterais juste revenir sur une chose par rapport au notaire et la digitalisation, si je peux me permettre. Je pense qu'on appelle injustement les frais de notaire. Des frais de notaire, parce que c'est des frais d'acte. Parce que dans une transaction, les notaires prennent un tout petit pourcentage sur ces fameux
8%. 0,8.
Oui. C'est 0,8. Donc c'est 10% de la somme qui est gardée. Et c'est le notaire. Nous, en tant qu'agent immobilier, nous n'avons même pas un dixième des responsabilités qu'a le notaire. Sur une vente, un dossier, il est sécurisé par le notaire. Il n'est pas sécurisé par l'agent immobilier. Ni par nous, les agences de papa, ni par n'importe quel agent immobilier. Il faut le dire, c'est très important, parce que c'est la clé d'une vente, c'est le notaire. Il y a un nombre d'heures de travail sur un dossier qui est conséquent. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas non plus digitaliser. Je pense que là-dessus, il faut être très clair. Et quand on a besoin de quelque chose, par expérience, j'ai beaucoup d'amis notaires. Quand il y a la déclaration de revenus à faire, on va voir son notaire. On se tourne vers son notaire, on va lui demander conseil pour toute l'année. Et tout ça, ce n'est pas facturé. C'est du service public. Et en tout cas, je pense que le notaire se substitue souvent au service public pour ça.
Alors justement, est-ce que demain, ça sera facturé ? Est-ce qu'on va tomber dans un modèle plutôt anglo-saxon où effectivement, chaque minute est décomptée au prix fort ? On va poser la question dans quelques instants à nos invités. On se retrouve juste après la première pause musicale. À tout de suite.
Et
Françoise Hardy, remixée par Bon Entendeur, Le Temps de l'Amour.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Quel sera l'immobilier de demain? C'est la question qu'on se pose ce matin en compagnie de Frédéric Ibanez, président fondateur des agences de Papa, le trublion de l'immobilier, et de maître Christophe Cheval, notaire associé KL Conseil, puisqu'on est en plein congrès des notaires en ce moment. Alors messieurs, on a parlé justement de ces nouveaux modèles, hein, de l'irruption du digital, que ce soit dans l'immobilier. C'est vrai qu'on a vu de plus en plus de visites virtuelles. Il fallait bien, hein, on ne pouvait pas se déplacer en 2020. Et puis ça continue, est-ce qu'il y a une accélération? Est-ce que ces nouveaux outils-là, ils perdurent aujourd'hui, ou on revient au face-à-face, on revient aux visites traditionnelles? Frédéric, quel est votre sentiment, là, votre observation?
Alors, mon observation, c'est que ça perdure et que c'est une nécessité.
Ça y est, c'était pas un épiphénomène, c'est une tendance.
Non, je pense qu'on a gagné 5 ans à tous les niveaux, aussi bien pour le... Je vous donne un exemple simple sur les commerces. On s'est rendu compte qu'il y a une société qui s'appelle Amazon qui vous livre à domicile.
Ah bon?
Donc on a commencé à faire du click and shop pendant le Covid. Il y en a beaucoup qui s'y sont mis. Et tant mieux. Et tant mieux. Nous, on essaye de faire, en tout cas, équitablement, un modèle français où on démocratise l'immobilier. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on ubérise l'immobilier. C'est faux. On le fait en France. On le fait avec des emplois en France. Et je vais vous donner un exemple tout simple également. Quand on voit aux États-Unis une société comme Airbnb, qui est aujourd'hui le plus gros logeur au monde, ils n'ont pas un appartement. Uber est le plus gros transporteur au monde. Ils n'ont pas une voiture. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, de notre côté, mais avec de l'humain derrière. Parce qu'il y a une plateforme, il y a un accompagnement. La machine ne peut pas tout faire dans l'immobilier. Ce n'est pas possible. C'est l'achat d'une vie, un appartement. Donc moi, personnellement, en tant qu'agent, je n'ai jamais vendu un appartement de ma vie. C'est toujours le client qui s'est positionné par coup de cœur. On ne vend pas un appartement comme on vend une voiture. Donc c'est évident qu'il faut une transition. Et on est plus dans un modèle mixte, physique et digital. On est plus dans le digital que vraiment dans le digital à 100%. Et j'espère bien que ça ne sera jamais le cas.
Mais est-ce que le propriétaire est toujours le mieux placé pour vendre lui-même son bien?
Bien sûr, c'est qui parle le mieux de son bien immobilier? C'est le propriétaire. Souvent, quand on se retrouve à faire des visites, et je pense que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont être d'accord avec ça, quand l'agent immobilier fait la visite, en priorité, le propriétaire, il se dit « mais vous avez oublié de dire ça ». Et vous avez oublié de dire ça, et il y a ça, au fait. Et qui de mieux pour présenter son appartement? Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Je pense que les personnes ont très bien aujourd'hui sont en autonomie. La télé a permis ça également avec Stéphane Plaza, qui a donné des explications très claires. C'est une émission qui est très regardée, qui a eu un franc succès. Et quelque part, ça permet aux personnes de connaître le prix au mètre carré. Tout le monde connaît le prix au mètre carré de son appartement. On sait combien on a acheté, on sait combien on a besoin de revendre pour avoir une pièce en plus. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'autonomie.
Alors, même question à notre notaire autour de la table, maître Christophe Cheval. Est-ce que le propriétaire est toujours le mieux à même de vendre son bien? Et je vous pose la question parce que vous voyez ensuite les dossiers passer. Et on peut être tenté, agent immobilier comme vendeur, s'il y a du bruit dans votre appart, s'il y a une malfaçon, quelque chose que vous pouvez cacher également, que vous n'avez pas forcément envie de mettre en valeur au moment, vous préférez regarder la belle vue que voilà, les squelettes dans le placard.
Alors, c'est vrai que le notaire, là, il a un rôle peut-être plus en retrait, en fait, hein, puisque quand les personnes viennent vous voir, ils ont déjà dealé, en fait, sur l'accord sur la chaussée, sur le prix. Et donc, nous, ce qu'on regarde, en fait, après, pour vérifier s'il n'y a pas ce genre de vice, c'est notamment, c'est consulter, en fait, les AG des copros, ou quelquefois, quand un copropriétaire se plaint d'un bruit ou se plaint d'un problème technique dans l'immeuble, c'est repris dans les AG, en fait, et là, on met le point sur notre acquéreur en disant, voilà, attention, il y a ça, est-ce que vous l'avez vu, en fait? Mais sur l'aspect relationnel entre le vendeur et l'acquéreur, c'est vrai que nous, on n'intervient pas tellement.
Mm-hmm. Ouais. On soulignait tout à l'heure le côté, quand même, dimension humaine qui a manqué. Alors, numérisation accélérée, effectivement, désormais, on ne paraffe plus des dizaines de pages, c'était assez fastidieux. Alors, certains aimaient ce cérémonial, d'autres un petit peu moins. Aujourd'hui, vous avez appris à le faire à distance, et surtout, on ne ressort pas avec une tonne de documents, de papiers. Voilà, je pense que c'était plusieurs milliers de ramettes tous les jours, dans toutes les études de France, qui partaient en fumée ou à la benne, parce qu'il fallait refaire, on s'était trompé, etc. Aujourd'hui, tout est numérisé, ça y est, on est passé dans une nouvelle ère.
Oui, vraiment. Et pour revenir sur cette signature à distance, c'est vrai que, en fait, ça s'est beaucoup accéléré, évidemment, avec la pandémie, le fait qu'on ne puisse pas se déplacer. On avait le même problème, finalement, que les agences immobilières, enfin, de ne pas pouvoir faire visiter. Nous, c'était accueillir du public chez nous pour les recevoir et signer les actes. Et d'ailleurs, le ministère public s'en est rendu compte, en fait, parce que dans le deuxième confinement, il nous a permis de recevoir des clients. Mais on a un système donc de vente à distance, enfin de signature à distance qui s'est mis en place de façon extrêmement efficace. Et à tel point qu'on y trouve aujourd'hui, alors qu'on est à peu près libre maintenant de se déplacer, on y trouve un attrait terrible parce qu'en fait, on a un client qui achète un appartement à Lyon. Ben, il peut être chez nous, en fait, à Paris pour signer cet acte. Et on a notre confrère à Lyon qui est avec son client. Mmh. Et on se partage de façon digitale, en fait, l'acte à signer. Vous voyez ?
C'est plus rapide également ?
Ah, c'est un gain de temps incroyable.
Alors oui, les transports, on comprend bien.
Les transports, évidemment, mais même les signatures se passent de façon plus fluide, en fait. Hein. Alors c'est vrai qu'il y avait toujours des discours agréables entre vendeur et acquéreur, en disant que la voisine du troisième, elle fait ceci, et ainsi de suite. On a pu ça, évidemment, avec ces signatures à distance, on gagne un temps fou. Ça n'empêche pas un acquéreur et un vendeur de s'appeler et de discuter de ça.
Oui.
Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment... Alors pour revenir aussi également sur le papier, puisqu'on tend évidemment sur le zéro papier dans toutes les professions, et chez nous, paradoxalement aussi, puisqu'on est connu comme les hommes du papier, en fait. Mais aujourd'hui, tout est digital, en fait. Hein. Les dossiers de vente, en fait, de préparation, la taille d'un papier à cigarette, c'est juste une pochette, en fait. Hein, et tout est numérique. Et à tel point que lorsqu'on a signé l'acte et qu'on a publié notre acte de vente, on envoie en fait un fichier au client. Il n'y a plus la remise d'une copie authentique qui était souvent égarée, qui prenait de la place, qu'on ne retrouvait plus le moment venu. Maintenant, voilà.
Pour matérialiser finalement l'acte, donnent quand même la pochette avec la jolie pochette cartonnée avec une clé USB.
Alors, on donne une clé USB ou un accès à un cloud numérisé, sécurisé. Mais voilà, c'est vrai que le papier, on donne des attestations parce que de façon immédiate, pour une inscription d'enfant à l'école, et ainsi de suite, on donne une attestation. Mmh. Ça n'a pas changé. Par contre, l'acte, c'est fini. Voilà.
C'est vrai. Donc ça a vraiment accéléré. On l'a senti également, Frédéric, énorme accélération. Vous le savez, c'est un peu la polémique du moment. Les réseaux traditionnels, ils vous regardent un petit peu en chien de faïence hein, quand même. C'est vrai qu'on rappelle les prix du marché, 3, 4, 5% du prix. On peut imaginer sur des biens prix moyen d'un bien en France, enfin acquisition de 100, 250 000 euros.
Oui, tout à fait. On est dans la ville où les commissions sont les plus chères de France. En moyenne, pour un appartement à 450 000 euros,
où ça ?
À Nice, je vous le rappelle, on est à 24 960 euros en moyenne de commission pour un bien à 450 000 euros. Donc concrètement, pour un couple, aujourd'hui, dans ce secteur, par exemple, c'est le prix d'acquisition d'une maison, d'une maison de trois pièces. Donc concrètement, c'est une chambre en plus. C'est le prix d'une chambre en plus. C'est un apport que tout le monde ne peut pas faire. Ça représente aujourd'hui ce prix-là, 24 960 euros. Souvent, c'est le prix du salaire moyen des Français. C'est quasiment un an de salaire.
C'est un an de salaire.
Et quand on l'emprunte, cette commission, sur 20 ans, on paye des intérêts sur cette commission. Mmh. On paye une assurance invalidité d'essai sur cette commission. Donc au final, ça finit vite par doubler. Et c'est une charge. Et d'un an de salaire, si on le paye comptant, ça peut représenter jusqu'à 2 ans de salaire et 2 ans de crédit en plus.
J'ai l'impression que vous allez m'annoncer que vous rendez du pouvoir d'achat aux Français.
Vous êtes
en campagne électorale, Frédéric Benet.
On rend du pouvoir d'achat, mais c'est évident. C'est évident, c'est des travaux en plus, c'est une chambre en plus, c'est des meubles. Mmh. Et c'est des fois tout simplement la possibilité de faire son acquisition.
Oui, c'est vrai. À un moment où, on le rappelle, les conditions se durcissent dans les banques, hein, sous la pression de la commission. Aidez-moi pour la sécurité financière.
Le Haut Conseil de la stabilité.
Donc les règles sont en train de se durcir en cette rentrée 2021. Vos petits camarades de jeu, ils se disent, bon, il y a un modèle traditionnel qui favorise aussi quelques milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Là, on peut comprendre que c'est compliqué de voir un nouveau modèle comme ça arriver, renverser un petit peu la table et en plus avoir un succès, il faut le dire, fulgurant.
Oui, alors on renverse les choses, oui et non. Le modèle d'aujourd'hui, c'est un modèle où l'emploi est précaire. Et je le dis ouvertement, quand on voit les réseaux, le mode de fonctionnement, c'est pyramidal. C'est des agents commerciaux qui n'ont pas de couverture. C'est ceux qui ont le plus souffert pendant le Covid. Dans une agence immobilière, il ne faut pas croire que tout le monde gagne des 100 et des 1000. Mmh. C'est faux. Il faut le dire, c'est faux. Les agents commerciaux doivent redonner la moitié de leur commission. Et bien souvent, plus. Ils attendent tous les 3 mois d'être payés. Ils ont des charges sociales. Donc c'est compliqué. Et je comprends que quand on arrive avec 2000 euros, tout le monde se dit comment ils font. Mmh. Comment ils font? Et finalement, nous, on se base sur un modèle de plateforme. On crée de l'emploi et par rapport à cet emploi qui est créé, on part du principe que ça 2000 euros, c'est pas rien. C'est le salaire moyen des Français, 152 heures de travail.
Ouais. Combien d'employés vous avez aujourd'hui?
On a 120 employés aujourd'hui sur notre plateforme. Et chaque employé, comme je vous le dis, 152 heures, ça suffit largement pour vendre un appartement. Ouais. Il n'y a pas besoin de plus de temps et on va beaucoup plus vite que ça.
Alors c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a votre modèle qui marche très bien et puis on voit d'autres modèles tels qu'effectivement les agents, les mandataires qui sont aussi des plateformes qui donnent finalement à tout un chacun la possibilité de se reconvertir et de faire de l'immobilier. Maître, je m'adresse à vous parce que vous les voyez aussi passer sûrement. Il y a les agences très connues au coin de la rue, des grands réseaux. Et puis, on a cette nouvelle race de vendeurs, j'allais dire, qui arrive. Voilà, les personnes se reconvertissent, ils ont une espèce de kit, ils se forment rapidement. Et puis, s'ils ont des relations, s'ils ont des exclusivités, ils vendent aussi. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, on est dans un marché de pénurie, mais où les gens ont envie de faire des transactions. Mmh. Donc, tout se vend.
Oui, mais alors là, on parle, je pense, des chasseurs, finalement, des chasseurs d'appartements. Alors, en effet, ce sont souvent des personnes qui ont eu une autre vie, en fait, et qui se reconvertissent en se disant, le marché immobilier est florissant, il y a une place pour moi. Mais, enfin, d'expérience, on se rend compte que c'est une activité qui est assez éphémère. Parce qu'une fois, en effet, que vous avez fait le tour de la famille ou des relations, vous dites, tiens, vends-moi cet appartement, t'as pas quelque chose à vendre, ainsi de suite. Mmh. Voilà, c'est pas une activité qui perdure, en fait. Alors, c'est vrai qu'ils ont très peu de frais de structure, hein, ils travaillent sur le net, ils vont chasser sur les annonces, et ainsi de suite. Mais rares sont ceux, enfin, à ma connaissance en tout cas, et qui perdurent. Voilà.
Ouais. Il faut se méfier là pour le public qui.
Alors, on ne devient pas agent immobilier par hasard. Enfin, je veux dire, c'est pas un métier qu'on crée comme ça. Il faut avoir déjà un sens commercial assez intéressant. Enfin, il faut avoir une connaissance du marché immobilier parce qu'on peut pas. Souvent, on est amené à donner une estimation du bien avant de prendre un mandat. Donc, pas dire n'importe quoi. Et voilà, c'est quand même. Il faut avoir un vernis. Mmh.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec vous citiez, c'est vrai, meilleurs agents, il y a pléthore d'informations, les sites sont extrêmement bien faits, on a toutes les
beaucoup
infos pratiquement immeuble par immeuble. Celui qui est un peu débrouillard, il peut se dire, moi, sur mon quartier, je connais assez bien, j'y vis depuis un petit moment, ou sur ma ville, j'ai peut-être 2-3 copains qui ont des biens à vendre, j'ai envie de les aider, je suis en transition. On peut être tenté, notamment quand on a effectivement, peut-être encore dépassé le million de transactions.
Oui, mais il y a quand même une analyse, en fait. Hein. Les bons agents immobiliers, ils analysent les dossiers en amont, en fait, hein, sur le nom, le titre de propriété, s'il y a des servitudes, des choses comme ça, que quelqu'un qui débarque dans ce métier va pas avoir de réflexe, en fait, hein, sur les charges de copro. Tiens, il y a des charges un peu importantes, là, ça va pondérer le prix. Voilà, il y a toutes sortes de choses, paramètres qui rentrent dans un prix de vente. Hein.
Vous voyez passer des mauvais dossiers, entre guillemets, parfois des choses où vous dites, mais là, objectivement... Il n'y a peut-être pas un défaut de conseil, mais visiblement, la personne pensait qu'au niveau des charges, au niveau de la surface, peut-être du quartier, ce n'est pas forcément une bonne affaire.
Oui, c'est vrai qu'encore une fois, on intervient en aval, en fait, de la transaction, hein, de l'accord, de l'échange de volonté. Mais c'est vrai que notre rôle de conseil, parce qu'on n'est pas seulement là pour authentifier des actes, on a un rôle de conseil qui est important, c'est de dire, oh là, est-ce que vous avez eu ce problème? Vous avez vu le montant, je parle d'une taxe foncière, de charges de copropriété, ça cache quelque chose, c'est notre rôle, évidemment, d'intervenir là-dedans. Oui.
Très bien. Bon, messieurs, on le voit, hein, vous avez parlé de chasseurs. Il y a les bons et les mauvais, hein, comme dans d'autres professions. On continue cette discussion passionnante avec Frédéric Ibanez des agences de papa et maître Christophe Cheval. Dans un instant, on va parler blockchain. On va parler aussi des nouveautés aux agences avec l'arrivée de deux poids lourds. Je n'en dis pas plus. On se retrouve dans un instant.
One night. One night to speed up truth, we had a promise made. Four hands and then away, both under influence. We had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above. One night of magic rush, the star to simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on.
Et on vient d'entendre Heartbeats de José González.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
On s'intéresse à une vaste question ce matin dans l'Hebdo Patrimoine. Quel sera l'immobilier de demain avec les agences de papa? Frédéric Ibanez, président et cofondateur, est avec nous, ainsi que maître Christophe Cheval, notaire associé KL Conseil, puisque nous sommes en plein dans le congrès des notaires. Alors on a parlé évidemment de cette crise qui a changé beaucoup de choses, l'appétit, les nouveaux modèles. Christophe, je reprends par vous l'avenir, hein, dont on parle beaucoup sur ce congrès. C'est aussi beaucoup de questions sur la blockchain. Alors, on s'explique, vous nous avez parlé effectivement d'une digitalisation croissante. Voilà, on n'a plus une tonne de documents, ça c'est plutôt pas mal. Demain, est-ce qu'on pourrait avoir un registre complètement dématérialisé, un registre complètement ouvert, mais très clair au niveau de la traçabilité des biens? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que vous êtes en train de basculer sur cette blockchain dont on parle beaucoup en ce moment?
Alors c'est vrai que la blockchain, en fait, on regarde ça de près depuis que ça a été créé. Et il y a des projets importants qui sont en train d'être montés, en fait, dans la profession, avec le Conseil supérieur du notariat et certaines chambres départementales qui sont aussi moteurs dans ces évolutions. Un premier, en fait, parce que quand vous envoyez un mail, en fait, à quelqu'un, c'est pas un moyen de preuve, en fait. Il n'y a pas de moyen de preuve de savoir si cette personne a bien reçu, qui était le bon émetteur, et ainsi de suite. Donc là, il y a déjà un premier projet de faire un blockchain qui certifiera que c'est bien parti de l'ordinateur de Monsieur X pour arriver chez Monsieur Y. Voilà, donc déjà, ça c'est un premier projet qui est déjà assez avancé. Et puis on a pensé aussi à une deuxième chose, parce que lorsque vous achetez un bien immobilier, en fait, il y a une publication qui se fait à la conservation des hypothèques.
Oui.
Et voilà, c'est une opposabilité au tiers, et c'est gravé dans le marbre. Mais en fait, sur les parts de sociétés non cotées, on n'a pas ce genre d'outils, en fait, imparables. Et donc, également, de cette façon, il y a un blockchain qui se crée, en fait, pour certifier les transferts de parts de société, d'une société à l'autre, d'un associé à l'autre. Voilà. Mmh. Ouais, c'est pour vous donner deux exemples, en fait.
Oui, c'est très intéressant. Est-ce qu'on a, par exemple, un cadastre aujourd'hui qui est numérique? Est-ce qu'on sait, dans chaque ville, à qui appartient quoi, et quelque chose d'infalsifiable?
Oui. Donc là, c'est, par contre, le cadastre, en fait, il est régi par le ministère public, en fait. Et donc vous avez un site cadastre.gouv.fr. Mais par contre, pour l'accès, en fait, à l'identité, en fait, du propriétaire de la parcelle cadastrée ZA23, là, il faut évidemment passer soit par un géomètre, soit par un notaire pour connaître le propriétaire. Et comme il y a un petit décalage, en fait, ce cadastre est alimenté par les publications des actes et que les conservations des hypothèques ont des degrés, enfin des délais plus ou moins longs, en fait, pour publier leur acte, le cadastre n'est souvent pas très à jour, en fait. Il faut, voilà, il faut généralement lever un état hypothécaire pour avoir vraiment l'identité du propriétaire.
D'accord. Donc, du coup, le système de la blockchain pourrait simplifier tout ça et le faire de manière pratiquement instantanée.
Oui, mais ça voudrait dire, en fait, doubler un système qui est gouvernemental, en fait. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué, déjà.
Et pour les prix, par exemple, on sait que les prix des notaires font foi. Hein. C'est en général le prix auquel les journalistes, le grand public se réfèrent, parce qu'on sait que c'est vraiment l'acte authentique. Ce n'est pas la publication qu'on a dans les agences, annoncée, je ne sais pas, à 450 000, puis c'est vendu à 300 000. Bon, est-ce que là aussi, on pourrait avoir justement... est-ce que la blockchain pourrait aider à avoir une traçabilité des prix, une transparence?
Alors, les notaires publient, en fait, à leur organe professionnel, en fait, les vrais prix des transactions. En fait, déjà, vous les avez, évidemment, lorsqu'on publie un acte, voilà, ça devient public. Mais nous, on les publie, en fait, à des sociétés, enfin, des émanations du notariat, et qui sont, en fait, ce sont des données dont les professionnels ont accès, avec des abonnements en particulier. Mais tout ça fonctionne déjà assez bien. Sauf qu'on a un petit décalage, en fait, puisqu'évidemment, on publie trimestre par trimestre. Et donc, on a, là, aujourd'hui, vous voyez, en septembre, ont été publiés les chiffres du deuxième trimestre. Mmh. On n'est pas à N-1 jour, vous voyez. Donc, voilà, c'est le seul petit bémol. Et puis, la petite chose aussi, peut-être, dont on pourrait faire un reproche, c'est qu'on n'a pas... On donne un prix, enfin, très brut, mais on n'a pas, derrière, en fait, quel est le niveau de travaux qu'il pourrait y avoir... Et ainsi de suite.
Voilà. Bien sûr. Donc, et on sait qu'il y a d'énormes disparités sur le même immeuble entre un rez-de-chaussée, évidemment,
ouais,
un appartement avec
vue, même état, si voilà.
Et l'état, évidemment, et comment ça, le bien a été conservé. Frédéric Ibanez, bien sûr, vous êtes à la pointe de cette techno, parce que même si ça paraît simple, on sait très bien que... Ben voilà, vous avez parlé de plateforme. Une plateforme, on sait que c'est très coûteux en termes de, voilà, pour adresser plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Quelles sont les innovations là, qui vous intéressent, que vous allez regarder? Est-ce que c'est... on parle beaucoup de choses, réalité virtuelle, voilà, intelligence artificielle. Est-ce que ce sont des choses, des outils dont vous allez... vous allez vous servir demain?
Bien sûr, on est une société immobilière, mais on a avant tout une PropTech. Donc l'objectif, c'est d'améliorer les outils existants, mais aussi de trouver de nouveaux outils pour faire évoluer le système et pour faciliter la transaction. Pour la bonne raison que les gens qui achètent des appartements, tous ces clients, tous ces acquéreurs, ce sont des personnes qui travaillent. Faut partir de ce principe. Si on ne travaille pas, on n'a pas de CDI, on ne peut pas acheter un appartement, c'est compliqué. Donc il faut leur faire gagner le plus de temps possible. Donc la visite à distance, moi je la vois... La visite virtuelle, je ne suis pas forcément convaincu. Je suis plus convaincu par l'échange social. C'est-à-dire, vous êtes chez vous, vous pouvez vous servir d'outils très simples pour faire visiter votre appartement à distance et avoir un échange avec votre futur acquéreur. Donc ça permet en même temps de pouvoir discuter avec la personne et de voir l'appartement. La visite virtuelle, ça fonctionne. On prend l'exemple du Bon Coin. Le Bon Coin publie des photos très simples et c'est le site qui fonctionne le mieux en France aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai. Il n'y a que 3 photos, en tout cas dans la version gratuite. Après, il faut payer un petit peu plus.
Tout à fait.
On parlait aussi de le prix, toujours le nerf de la guerre. Il y a souvent des gens qui sont un petit peu gênés au moment de la transaction, en tout cas qui se disent ça ira mieux, ça va forcément être mieux négocié avec quelqu'un qui me représente, un agent immobilier, ou on le disait peut-être un collègue ou quelqu'un qui s'y connaît. Pour vous, est-ce qu'il y a des outils justement d'assistance à la vente qui doivent être développés aujourd'hui pour avoir le vrai prix?
Oui, pour avoir le vrai prix. Moi, je pars du principe qu'on va plus aller vers le marché de demain, c'est par rapport à ce sujet, qu'on va plus aller vers de l'assistance à la vente. Je pense qu'il faut arrêter de dire les mandataires sont les meilleurs, les agents immobiliers sont les meilleurs. Je pense qu'avant tout, c'est le client. Il faut aller dans le sens du client. L'objectif, c'est de l'accompagner dans la négociation. Et le client peut être mis en relation avec quelqu'un qu'il connaît dans une transaction. Et finalement, ce qui va les gêner, c'est de pouvoir faire cette partie de négociation. Donc, quelle technologie peut faire ça? On peut faire du eBay, faire une offre sur un site internet. Je pense que pas pour un appartement, et je l'espère pas. Raison pour laquelle, sur notre plateforme, on agit en tant qu'intermédiaire. Et on s'occupe de la négociation, on le fait à distance, on le fait par téléphone, mais il y a un intermédiaire, on n'est pas sur un site d'enchères.
D'accord. Il y a quelqu'un physiquement qui va le faire, qui va être au
Ah, concrètement, on a le même interlocuteur tout au long de la transaction. Ça permet de connaître vraiment le propriétaire, de connaître les acquéreurs et d'être le meilleur négociateur possible. Je ne pense pas, quand bien même on inventerait tous les outils, qu'il faut garder une partie humaine dans la transaction immobilière.
Bien sûr. Maître Cheval, on est de nouveau sur une année assez exceptionnelle. On connaît les raisons, beaucoup d'épargne. Frédéric nous disait tout à l'heure, envie d'espace, de verdure, de changer d'air un petit peu après cette crise compliquée qui nous a fait réfléchir. Est-ce qu'on est sur les mêmes tendances que 2020 ? Est-ce que ça accélère ? Quelles sont les tendances là, que vous observez ?
Alors, il y a une augmentation évidemment du volume. Ça, c'est facile à dire, en fait, de l'année 2020 à 2021. Mais il y a aussi, en fait, une évolution des prix. Enfin, tout ça, c'est un peu corrélé, hein, puisque, en fait, on est dans une période de pandémie. Donc, il y a toujours l'effet valeur-refuge, évidemment, de la pierre. Et puis, il y a une tendance aussi qu'on note, c'est quand même le fait que les grandes métropoles, en fait, ne sont plus une source d'attirance. Hein. Déjà, il me semble qu'en 2019, il y avait une étude qui disait qu'il y avait 40% des Franciliens qui voulaient quitter donc l'Île-de-France.
Oui.
Là, on est augmenté à 44%. Hein. Bon, c'est une petite tendance, mais toujours à la hausse. Hein. Même si le bassin d'emploi, c'est vrai que c'est beaucoup l'Île-de-France, les gens, en fait, avec le télétravail, se disent voilà, c'est une belle opportunité d'aller s'installer dans des villes moyennes, dans un autre environnement, et de travailler donc à distance. Et pour ça, en fait, il y a des critères, et là, Frédéric serait beaucoup plus à même d'en parler que moi, c'est notamment la connexion Internet. Ça, c'est de plus en plus...
On veut bien déménager, mais il faut pouvoir travailler là où on est.
Une excellente connexion Internet. Mm-hmm. Alors, mais mon sentiment quand même là-dessus, c'est que le télétravail, ça a été évidemment accéléré. Ça existait depuis toujours, ce télétravail. Ça s'est accéléré. Je voudrais bien voir les effets dans le temps, parce qu'on a quand même besoin de socialisation, de pouvoir rencontrer, d'échanger, de rencontrer sur N plus 1, parce que quand on est à distance, c'est pas toujours facile d'avoir une relation, de montrer ses capacités, et ainsi de suite. Donc je voudrais bien voir ça sur la distance, c'est-à-dire qu'il y a un grand effet, évidemment, de retour en province. Je voulais me mettre à 4-5 ans, voir quelle est réellement la situation.
Mais là, 2021, est-ce que vous, dans votre étude, il y a des gens, vous voyez, par exemple, vous êtes à Paris, des Parisiens qui vous disent, bon, là, on vend la propriété, ou voilà, on était dans le centre de Paris pour aller, à Bordeaux, à Nantes, à Lyon.
Très clairement.
D'accord.
Oui, vraiment.
C'est pas un délire de journaliste, ça existe.
C'est pas un délire de journaliste, et j'étais en congé en Bretagne, et j'ai rencontré des gens, enfin, des jeunes, des néo-retraités, ou des gens qui sont juste à la limite, qui ont tout arrêté, qui sont installés en province, en fait, vraiment. Et ce n'était pas une vue de l'esprit, hein. J'en ai rencontré plusieurs.
Hein. Ouais. Alors, on a en ce moment un retour au travail, un petit peu moins de télétravail. Il faudra voir effectivement dans le temps. Et on se demande s'il n'y aura pas une deuxième vague de gens qui, peut-être, vont se lasser aussi et se dire, bon, c'est bien aussi les grandes villes. Mais ça, on verra, on fera d'autres émissions. Il nous reste quelques minutes. Frédéric, je voulais aborder aussi votre actualité. Hein, deux poids lourds entrent au capital des agences de papa. Alors, il y en a un qui est mondialement connu et qui est votre emblème, votre image de marque, c'est Teddy Riner. Et puis il y a également Philippe Journeau, un des principaux entrepreneurs européens dans le secteur de l'immobilier. Ce sont deux individus qui de personnalité là, qui vous font confiance, comme disent les Américains,
qui nous font confiance.
Mettent avec de l'argent sur la table.
Qui mettent de l'argent sur la table, tout à fait, il faut être très clair. Et également, l'exemple de Teddy Riner, c'était à l'origine notre ambassadeur. Donc il a eu le temps de découvrir la société. On a eu le temps de se connaître, de partager beaucoup de choses. Et à partir de là, nos objectifs se sont vite rejoints. Lui, ce qu'il souhaite, c'est pouvoir permettre au plus de personnes d'accéder à la propriété. Donc à partir de là, son investissement était, pour lui, c'était évident. C'est une évidence. Et quand il est venu nous en parler, on était très contents et on en est très fiers.
C'est quelqu'un qui investit, Teddy Riner, dans l'immobilier ou dans d'autres choses ?
Alors, c'est un grand sportif.
On sait justement que c'est un sujet,
c'est
parce qu'ils ont une carrière courte.
Et en plus de ça, c'est quelqu'un de très intelligent, qui sait ce qu'il fait, qui est très bien entouré et qui pour ça est très bien conseillé.
D'accord.
Donc c'est pas juste du coup de cœur, c'est aussi parce qu'il croit au projet. C'est comme Philippe Journeau. Donner l'exemple, Philippe Journeau, c'est un des plus grands entrepreneurs européens dans l'immobilier. Son historique est juste énorme. Il nous suit parce que quelque part, on apporte, je vais vous dire ces mots, on apporte quelque chose de nouveau et c'est un visionnaire. Il pense que notre modèle, en tout cas, c'est le début de quelque chose. C'est le début d'un changement. On a une marge de progression qui est encore importante parce qu'on vient juste, on a démarré il y a 2 ans. Et en tout cas, l'avantage, c'est qu'avec des personnes qui ont autant d'expérience que lui, ça va nous permettre encore d'évoluer et d'avancer. Mmh. Et d'avoir une personne comme lui qui, dans l'immobilier, nous a rejoints, c'est vraiment, c'est une fierté, c'est un plus pour la société. Et je pense que ça va apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ça va nous aider encore à progresser.
Ouais, j'ai une dernière question d'actualité, puisqu'on voit qu'il y a des gros montants qui sont levés aujourd'hui. Dans à peu près toute la French Tech en général. Vous faites partie des prop tech, donc des sociétés tech dans la property, donc dans la propriété, dans le real estate. Si demain, il y a un acteur, un gros acteur, en tout cas beaucoup plus gros que vous, industriel, qui arrive et qui met un chèque avec beaucoup, beaucoup de zéros sur la table, c'est quelque chose que vous regarderez ou vous voulez vraiment vous projeter dans le temps avec cette aventure ?
On est très attaché à notre projet avec Nicolas. C'est comment on peut dire, on est des papas, c'est un peu notre bébé. Et l'objectif, c'est de le développer, de le monter le plus haut possible et de faire en sorte que ça devienne quelque part une norme, parce que je pense que c'est le modèle économique complet qu'il faut changer. C'est pas simplement, je pense que ça dépasse notre entreprise et c'est mondial, toutes ces commissions. C'est aujourd'hui, dans tous les pays, on est entre 5 et 7%, c'est la moyenne. Je pense que ça ne peut plus tenir. Je pense que les prix, il y a tout devant nous pour penser que ça va encore augmenter. Et que forcément, les salaires ne vont pas suivre. Donc ça va être de plus en plus dur d'acquérir de l'immobilier. Mmh. Et la seule chose sur laquelle on peut jouer aujourd'hui, c'est sur ce tarif, sur ces prix. Donc c'est important. Je pense que c'est un sujet de société. Je pense qu'il y a beaucoup à débattre sur ce sujet. Et en tout cas, on apporte une alternative. Et on espère que cette alternative, on va l'apporter le plus haut possible.
Merci Frédéric Ibanez. Je rappelle que vous êtes le cofondateur des agences de papa avec votre compère. Merci. Nicolas Frattini. Merci également à notre notaire.
Merci à vous.
Christophe Cheval. C'était extrêmement clair pour tous ces sujets dont on va parler et qui vont continuer à bouleverser le paysage, en tout cas toute cette digitalisation qui arrive à peu près dans tous les métiers. Merci à Pierre Falson qui a réalisé cette émission, à Sophie Bernard qui l'a préparée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain numéro de l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.